stressant, ça peut amener à l'épuisement, etc. Donc on va pas nécessairement se réflexer à le penser que ok, les proches ont besoin de soutien aussi, mais c'est très certainement le cas parce qu'on le voit tous les jours à l'ACPAM, on le voit tous les jours à l'ACPAM que quand les proches ils finissent par arriver chez nous, ils sont épuisés, ils sont très fatigués, ils ne savent plus vers qui se tourner, etc., etc.
C'est sûr que ce n'est pas chose facile à faire. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes habituellement confrontés?
On est confrontés très souvent, on appelle ça la baguette magique. Quand les proches, quand ils arrivent chez nous, ils veulent qu'on règle le problème, entre guillemets, le problème de leurs proches. Donc ils arrivent chez nous, ils sont épuisés, ils sont en difficulté. Et ils disent, en tout cas, mon proche, il vit l'anxiété, ou il vit avec la schizophrénie, ou il vit la dépression, etc. Donc ils veulent, avec la baguette magique, ping, faire en sorte que la personne aille bien. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que fonctionne la santé mentale. Et donc, on doit les apprendre. Et souvent, donc, les proches, ils se mettent dans ce qu'on appelle le rôle de sauveteur. Les proches, ils veulent comme tout faire pour que leurs proches aillent bien. Ils veulent faire ceci ou faire cela. Ils s'offrent à les aider. Ils se mettent dans ce rôle de sauveteur. Mais quand ils font ça, ils se mettent à un risque de s'épuiser. Et donc, nous, ce qu'on dit aux proches aidants, aux membres de l'entourage, c'est, je ne sais pas si vous avez pris l'avion ou il y a des personnes qui ont pris l'avion dans leur vie, etc., que quand on est dans l'avion, il y a la petite consigne qui nous dit s'il n'y a pas d'oxygène, les masques d'oxygène vont tomber. C'est important de mettre le masque d'oxygène sur soi-même d'abord avant de le mettre sur l'autre. Ça, c'est le type de difficulté auquel on est confronté parce qu'on dit aux proches aidants ou aux membres de l'entourage, écoutez, vous avez besoin de mettre le masque d'oxygène sur vous-même parce que si vous qui êtes dans l'entourage de l'autre personne qui vit avec la problématique de santé mentale, si vous êtes épuisé, si vous n'êtes pas bien dans la situation, vous n'allez pas être en mesure d'offrir le soutien dont l'autre personne a besoin. Donc, on a besoin que vous soyez bien dans votre situation pour que vous puissiez être d'un soutien, d'un appui, d'une aide pour la personne que vous aimez. Et donc, c'est souvent autour de ces enjeux-là que nous allons intervenir. En tout cas, c'est un peu facilement dit comme ça, mais souvent, surtout dans une relation entre papa et enfant ou maman-enfant ou entre aimant et aimant ou conjoint, ça peut être très compliqué. Donc voilà un peu quelques difficultés auxquelles on est confronté.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Comment le Covid-19 a-t-il bouleversé vos activités?
C'est certain que la Covid a aggravé la santé mentale de beaucoup, beaucoup de personnes. En tout cas ici, au Canada et au Québec, c'est certain que j'ai des statistiques ici que j'avais préparées qui disent que en 2020, il y avait 38% de la population canadienne qui avait dit que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie. Et en 2021, ce pourcentage a grimpé à 47%. Donc à fin 2021, 47% de la population indique que leur santé mentale s'est aggravée depuis le début de la pandémie. Et donc là, on est sur une personne sur deux.
Que montrent tous ces chiffres?
Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quasiment, on va dire, la majorité de la population a vu sa propre santé mentale détériorée depuis le début de la pandémie. Vu que nous avons du monde autour de nous, dans notre entourage, ces personnes-là doivent composer avec leur santé mentale qui se détériore, mais aussi avec la santé mentale des gens qui sont autour d'eux. Donc vous voyez que là, on est comme dans un cercle vicieux par rapport à la santé mentale, et donc on se sent moins bien individuellement, et on va être moins en mesure d'offrir du soutien à nos proches, aux personnes qu'on aime autour de nous. Et donc c'est certain que nous, on travaille en collaboration avec beaucoup d'associations ici au Québec, et donc on voit que le nombre de demandes pour des services, pour du soutien, etc., ça a augmenté. Et aussi, en tout cas, les difficultés que les personnes vivent peuvent être aussi plus sévères. Et donc, juste un dernier mot sur ça, c'est que donc là, j'ai beaucoup parlé un peu de, on va dire, de la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle, parce que l'ACPAM, on intervient aussi en milieu de travail.
Pourquoi avoir intégré l'aspect professionnel dans vos activités?
Parce qu'on constate depuis des années maintenant qu'il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale en milieu de travail. Les statistiques sont très alarmantes par rapport à la question de la santé mentale en milieu de travail. Par exemple, en 2021, il y avait 50% des personnes qui ont quitté en 2021, qui l'ont quitté pour des motifs de santé mentale. Et ce chiffre, ça grimpe 68% pour les milléniaux et 81% pour la génération Z. Donc 81% des travailleurs de la génération Z en 2021 qui ont quitté un emploi.
Pour des raisons de santé mentale.
Pour un motif de santé mentale. Ça nous indique que la santé mentale est une question qui nous affecte tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. De plus en plus de personnes sont impactées par rapport à la santé mentale et que ça constitue de plus en plus un motif pour les personnes de quitter leur emploi parce que ça va pas bien au niveau de leur santé mentale. Bien sûr, tout ça, c'est relié à la pandémie. On va dire qu'il y avait déjà des facteurs présents parce que la santé mentale en milieu de travail, par exemple, n'allait pas bien avant la pandémie. C'est comme si la pandémie ajoutait de l'huile sur le feu par rapport à cette question-là. Donc, c'est un peu ça ce que nous avons vu, ce que nous constatons depuis le début de la pandémie.
Qu'est-ce qui peut faire que la santé d'un employé se détériore en milieu de travail?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs individuels et il y a des facteurs, on va dire, sociaux ou sociétaux. Donc, la santé mentale est impactée par l'ensemble de ces facteurs. Donc, il y a des facteurs biologiques et des facteurs psychologiques.
Quand vous parlez des facteurs biologiques, à quoi vous référez-vous?
Donc les facteurs biologiques, c'est nos gènes, nos hormones, tout le corps physique, etc.
Et les facteurs psychologiques?
Et les facteurs psychologiques, c'est nos croyances, nos valeurs, nos expériences de vie, nos perceptions de nous-mêmes et des autres, etc. Donc, tout ça, ça constitue la santé mentale des individus, mais aussi des facteurs sociaux et sociétaux.
Comment les définissez-vous, ces facteurs sociaux et sociétaux?
Les facteurs sociaux, ça c'est les relations qu'on a avec nos amis, avec la famille, mais c'est là-dedans que rentrent aussi les facteurs organisationnels pour les problématiques de santé mentale en milieu de travail. Et on se rend compte que les facteurs organisationnels, donc là on peut parler de la charge de travail, parce que souvent on est dans un monde frénétique où la charge de travail est souvent trop importante pour tout le monde. On peut parler de soutien qu'on a de nos collègues ou du manque de soutien qu'on a de nos collègues, des facteurs en ce qui concerne la communication, l'organisation du travail, la répartition des rôles et des responsabilités quand c'est pas clair, ça peut être des facteurs qui contribuent négativement à la santé mentale des personnes en milieu de travail. Et donc il y a un ensemble de facteurs organisationnels qui sont soit des facteurs de risque, on appelle ça des facteurs psychosociaux, des facteurs de risque ou des facteurs de protection qui peuvent contribuer positivement à notre santé mentale en milieu de travail, mais qui peuvent aussi contribuer négativement à notre santé mentale en milieu de travail. Donc, pour résumer un peu ce que je dis, il y a comme des facteurs individuels. Donc, les individus, on a tous et toutes un bagage par rapport à notre propre santé mentale qu'on amène en milieu de travail. Et certaines personnes ont un terrain peut-être un peu plus fertile à développer des difficultés en milieu de travail. Mais qu'ensuite, il y a des facteurs sociaux ou organisationnels en milieu de travail. Et le climat de travail, par exemple, quand il y a un climat de travail qui est toxique, bah, c'est sûr que ça ne va pas aider la santé mentale des individus qui sont en milieu de travail. Et donc, on va dire que la santé mentale en milieu de travail, c'est un peu le résultat de ces facteurs individuels, mais aussi de ces facteurs organisationnels. Et je finirai juste en disant une dernière chose, et c'est le stress, parce que le stress n'aide en rien la santé mentale. Et très souvent, au travail, on est exposé. Très souvent, le travail, c'est là qu'on est le plus exposé au stress dans notre vie. Et quand on est exposé au stress à du long terme, ça peut contribuer à ce qu'on appelle de la détresse psychologique. Et plus on vit de la détresse psychologique, etc., ça va avoir un impact négatif sur notre santé mentale. Voilà ce qui se passe par rapport à la santé mentale des individus en milieu de travail.
Quelles peuvent être les conséquences sur l'employé qui est en détresse psychologique?
La santé mentale affecte l'individu qui est au travail, mais ça peut affecter aussi l'organisation. C'est-à-dire que la personne qui est en détresse psychologique va avoir plusieurs types de manifestations ou de symptômes comportementaux, des symptômes affectifs ou émotionnels, des symptômes physiques et des symptômes cognitifs. Donc des symptômes comportementaux, c'est-à-dire que la personne va être plus en retrait, par exemple. Des symptômes affectifs, la personne va être plus triste, par exemple. Des symptômes physiques, ça va être la personne va avoir mal dans le dos, ou la personne va être plus fatiguée, avoir un trouble de sommeil, etc. Des difficultés cognitives, ça c'est des pertes de mémoire. Et donc toutes ces choses-là vont affecter l'individu en milieu de travail, et ça peut avoir des conséquences sur l'organisation. Donc là, on peut tout à fait parler de la productivité, on peut parler de l'absentéisme, qui peut avoir un impact sur la productivité d'une équipe ou d'un département ou d'une organisation. Il y a aussi le présentéisme, c'est-à-dire qu'une personne est au travail mais la personne ne produit pas, la personne ne fait pas son travail, la personne est comme juste là, mais la personne ne se sent pas bien, donc la personne n'est pas capable de fournir le travail, donc ça a aussi un impact sur la productivité. Ce que ça peut faire aussi, c'est que ça crée une charge de travail accrue pour ses collègues, ce qui peut miner un peu le climat de travail. Ça peut rendre le climat plus difficile, ce qui a définitivement un impact sur la productivité des personnes, etc. Donc vous voyez que définitivement, il y a un lien à faire entre les difficultés de santé mentale et la productivité. Et ensuite, si la personne part de l'emploi pour santé mentale, si la personne est absente, c'est certain que ça commence à avoir un impact financier sur la compagnie, sur l'organisation.
Est-il possible de mesurer les pertes d'une entreprise due à une mauvaise santé mentale des employés?
Ici, au Canada, le coût annuel pour la santé mentale, le coût total annuel, et ça fait déjà quelques années là que cette statistique est sortie, et la statistique que je vous dis là, ça inclut les dépenses gouvernementales, c'est 51 milliards de dollars. Et dans ce 51 milliards de dollars canadiens, il y a à peu près 20 milliards de dollars qui sont des coûts directement associés aux compagnies. Et donc pour les compagnies, il y a des coûts monstrueux par rapport à la santé mentale, et beaucoup de ça revient à cette question-là de productivité. Et donc il y a beaucoup à faire pour la santé mentale en milieu de travail. Oui, pour la productivité, oui, parce que ça a un coût énorme, mais tout simplement parce que on veut que les gens soient bien, on veut que les gens soient heureux et bien, parce que c'est dans ce cas de figure-là que les personnes vont être heureuses et qu'ensuite les personnes vont bien faire le travail qu'ils ou elles ont à faire.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Comment les employés et les employeurs même peuvent contribuer pour rendre leur environnement favorable à une bonne santé mentale?
C'est aussi pour ça que je voulais aborder un peu les facteurs, parce que on a tous et toutes une responsabilité individuelle par rapport à notre propre santé mentale. C'est-à-dire que je suis en partie responsable de ma santé mentale, vous êtes responsable en partie de votre santé mentale, mais la santé mentale n'est pas qu'une affaire individuelle. Souvent dans le monde-là, on croit que la santé mentale est individuelle et que donc la réponse à apporter, c'est uniquement individuel. Bon, on habite dans un monde individualiste, donc c'est pas surprenant. Mais la santé mentale, comme je dis, ça va au-delà de ces facteurs individuels. Il y a des choses qu'on doit faire comme individu, mais aussi, je parlais des facteurs sociaux, je parlais un peu moins des facteurs sociétaux, mais ces facteurs sociaux, ce que ça veut dire, c'est que la santé mentale des gens qui sont dans mon entourage, avec qui je suis proche, leur santé mentale va être impactée par nos relations et ma santé mentale va être impactée par mes relations. Et donc, mieux comprendre ce qui se passe chez nous sur le plan de la santé mentale, avoir davantage de connaissances de la santé mentale, mieux comprendre la santé mentale en tant qu'individu, avoir une meilleure conscience de ma santé mentale, dire ok, là aujourd'hui je me sens un peu moins bien parce que hier j'ai vécu une situation difficile, amener à améliorer, à augmenter notre connaissance et notre conscience de notre propre santé mentale, ce sont des choses que nous pouvons faire, et aussi aller chercher de l'aide, là, parce que c'est bien beau d'avoir conscience que je vis une difficulté psychologique, c'est bien beau peut-être à des amis ou de se le dire à soi-même, mais comme aller chercher de l'aide professionnelle, c'est sûr que ça c'est très important et c'est très utile sur le plan individuel, mais il y a aussi des choses que nous pouvons faire pour nos proches, pour les gens qui sont autour de nous, comme cultiver des relations où on fait preuve d'empathie, où on est à l'écoute des gens qui sont autour de nous. Par exemple, si moi j'ai un frère qui vit avec une difficulté de santé mentale, au lieu de le minimiser en lui disant « Ah ben, t'es pas fort, toi, relève-toi, c'est pas grave, il faut que tu mettes plus d'efforts, etc. » Au lieu de minimiser ce qu'il va vivre.
Donc, au lieu de minimiser, quelle devrait être l'approche? Que devrait-on faire?
On peut avoir plutôt une approche empathique pour essayer de comprendre ce qu'il dit et de le valoriser dans ce qu'il est en train de vivre et dire que hey, ben tu sais, c'est correct que parfois tu te sens pas bien et que tu aies des journées difficiles. Et donc avoir cette approche empathique où on va être à l'écoute de ce que dit l'autre personne.
Quel est l'avantage d'une telle approche?
En fait, ça donne l'espace à l'autre personne pour vivre ce qu'elle a à vivre, ses difficultés ou ses problématiques. Et en fait, en donnant cet espace-là à l'autre personne et en assurant que, eh bien, écoute, moi je suis là pour te soutenir dans ce que tu vis ou pour t'écouter ou juste pour qu'on passe du temps avec toi si tu as besoin de compagnie. Souvent, c'est des choses qui, en fait, améliorent la santé mentale des individus. Donc, vous voyez que là, il y a des choses que nous pouvons faire par rapport à la santé mentale, par rapport à notre propre santé mentale. Et il y a des choses qu'on peut faire relationnellement par rapport à la santé mentale des gens dont on est entouré. Et ce qui est certain là-dedans, c'est que si quelqu'un vit une difficulté quelconque, ou si on est proche aidant d'une autre personne qui vit une difficulté, c'est certain qu'aller chercher de l'aide professionnelle, c'est essentiel. C'est très important. Moi, je travaille dans le domaine de la santé mentale depuis plusieurs années maintenant, et moi, je suis quelqu'un, je vais chercher de l'aide quand je me sens moins bien, je vais chercher de l'aide, parce que c'est comme aller chez le médecin, c'est comme aller à la pharmacie, etc. Quand on sent moins bien, on va aller chercher des médicaments. C'est la même chose pour la santé mentale. Donc voilà.
Effectivement, c'est très important de chercher de l'aide. Mais où ?
Ça dépend d'où on est. Par exemple, au Québec, et comme je disais, il y a le réseau public qui offre des services. Il y a aussi tout un réseau d'associations. Ici au Québec, on les appelle les organismes communautaires, mais c'est des associations qui offrent gratuitement des services à la population. Par exemple, moi, je suis originaire des États-Unis, malgré mon accent galère européen. Moi, je suis originaire des États-Unis, donc je sais qu'il y a comme tout un autre système qui est en place aux États-Unis. Donc ça dépend d'où on est dans le monde, mais c'est certain qu'ici au Québec, il y a tout un réseau d'associations qui offrent des services qui sont adaptés à différentes problématiques de santé mentale, parce que bon, la santé mentale est quand même très large, il y a différents problèmes, et donc il y a des associations qui sont spécialisées dans certains troubles ou accompagner certaines personnes, et donc...
Vous avez aussi attiré l'attention sur le fait qu'on minimise parfois, peut-être même souvent, les propos d'une personne qui dit qu'elle ne se sent pas bien mentalement. Quelles peuvent être les conséquences quand on néglige ce genre d'alerte ?
Ça peut aggraver la situation de la personne. J'avais parlé tantôt de la détresse psychologique. Quand on normalise une situation, souvent quand on vit une difficulté, on va croire qu'on est seul au monde à vivre la chose. Mais en fait, très souvent, on n'est pas du tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi cette même chose. Et quand on peut normaliser ce que vit la personne en disant que, hey, tu sais quoi là ? Je ne veux pas minimiser, mais je veux juste dire que c'est normal que ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, t'es pas une mauvaise personne, t'es pas nul, t'es pas moins capable, etc. Quand on normalise une situation que vit une personne, ça réduit les chances que la personne vive de la détresse psychologique. Tandis que si on minimise en disant que « Ah ben non, mais quand même, non, relève-toi mon gars, sois fort, etc. » Ça augmente les chances qu'on vive de la détresse psychologique. Parce que la personne qui est en détresse, là, elle se sent déjà pas bien. Et quand on met la personne en situation d'échec, en disant que, non, mais c'est ta faute, ou tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça, alors que tu es juste assis sur le canapé, à ne rien faire, etc. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on met la personne en situation d'échec, alors que la personne se sent déjà pas bien. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on creuse le trou plus profondément de la personne, au lieu d'aller aider la personne. Quand on minimise ou quand on met de côté l'importance de ce qu'elle vit, c'est certain que l'impact que ça a, c'est que ça aggrave sa problématique de santé mentale. En ce qui concerne la relation entre les deux personnes, la personne dans sa tête va dire « Oups, ok, cette personne-là qui minimise ce que je vis, cette personne va dire « Ok, moi je ne suis pas comme en sécurité psychologiquement parlant avec cette personne parce que cette personne ne me comprend pas, ne m'accueille pas dans ce que je vis, ne me reçoit pas dans ce que je vis. » Et au lieu de faire ça, la personne me minimise dans ce que je vis. « Ok, cette personne n'est pas bonne pour ma santé mentale. » Et donc, vous voyez que ça peut avoir non seulement un impact au niveau de la personne par rapport à ce qu'elle vit, mais ça peut avoir un impact aussi sur la relation. Et donc, si on fait ça avec les gens qu'on aime, ça risque d'avoir un impact négatif sur nos relations avec ces personnes. Et j'imagine que ce n'est pas ce qu'on veut faire.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Nous sommes à la fin de notre interview, Monsieur Johnson. Quel conseil donnez-vous à toutes les personnes qui nous suivent ?
Merci d'avoir écouté cette émission. Ça veut dire que vous vous intéressez à la question de la santé mentale. Donc ça, c'était un premier pas que vous avez fait. Et je vous félicite pour avoir fait ce pas-là. Et je vous encourage à continuer. Si vous voulez apprendre davantage sur la santé mentale, allez vous renseigner. Si vous vous sentez un peu moins bien, je vous encouragerai à aller chercher de l'aide ou peut-être en parler avec vos proches. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui se sent pas bien, je vous encouragerai à leur offrir de l'écoute et à leur encourager à aller aussi chercher de l'aide.
Merci beaucoup, Monsieur Johnson. Au revoir.
Merci à vous.
C'était notre entrevue avec David Ford Johnson, directeur général d'ACPAM, l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale à Montréal, au Canada. Il a expliqué l'importance de chercher de l'aide lorsqu'on s'occupe d'un proche ayant des problèmes mentaux. Il a aussi attiré l'attention sur l'impact que notre environnement au travail peut avoir sur notre mental. Maintenant, c'est l'heure du carnet de santé avec Flore Conteau.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la Cour suprême des États-Unis a interdit l'avortement. Quel impact pour l'Afrique? Nous jetons un regard. Le docteur Abebe Chibrou, directeur de l'ONG MSI Reproductive Choices, partage les défis liés à l'interdiction de l'avortement aux États-Unis. Ensuite, les premiers cas du virulent virus de Marburg détectés au Ghana. Enfin, bébé pourrait influencer l'humeur des parents selon les chercheurs. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler Roe versus Wade, la loi qui depuis près d'un demi-siècle garantissait le droit des Américaines à l'avortement, suscite des inquiétudes. Cette décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais laisse le soin à chaque État de l'autoriser ou non. Selon les défenseurs du droit à l'avortement, cet arrêt porte atteinte à la santé et aux droits reproductifs des femmes. Les groupes et personnes qui s'opposent à l'avortement ont salué la décision. Chaque année, 47 000 femmes dans le monde meurent des suites d'un avortement à risque, selon la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Les observateurs s'inquiètent de l'effet domino de la décision de la Cour suprême américaine dans les pays sous-développés, y compris sur le continent africain. Partons au Kenya, où l'opposition entre les groupes pour et contre l'avortement s'intensifie suite à la décision de la Cour suprême américaine. Reportage de Juma Majanga depuis Nairobi au Kenya. Le récit est de Rosine Munezero.
Les opposants kényans au droit à l'avortement, majoritairement chrétiens, ont célébré l'annulation de ce droit par la Cour suprême des États-Unis en juin, la qualifiant d'intervention divine.
L'avortement est un meurtre et les avorteurs sont aussi des meurtriers. Donc, quand je vois que la Cour suprême choisit la vie, c'est la voie à suivre.
Le Kenya a maintenu le droit à l'avortement, mais uniquement pour des raisons de santé, ce qui conduit de nombreuses femmes à chercher à se faire avorter sur demande dans des conditions dangereuses et illégales. Après avoir vu son ami se vider de son sang à la suite d'un avortement de ce type à Nairobi, cette jeune de 20 ans, que nous appellerons Diana, pour protéger son identité, a demandé l'aide d'un professionnel lorsqu'elle a voulu avorter.
Je suis allée dans une bonne clinique et le médecin m'a fait suivre le processus. Comme vous pouvez le voir, je vais bien, je suis en bonne santé, je n'ai pas de complications.
Mais comme de nombreux partisans du droit à l'avortement en Afrique, Diana craint que la décision de la Cour suprême des États-Unis n'encourage davantage de restrictions légales au Kenya et n'entraîne davantage de décès. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 75% des avortements en Afrique ne sont pas sûrs. Le ministère de la Santé du Kenya estime que 2600 femmes et jeunes filles meurent chaque année de complications liées à des avortements non sécurisés, soit 35% de tous les décès maternels.
Il y a un taux élevé de décès maternels résultant d'avortements à risque parce que ces femmes se sont vues refuser le droit d'avoir des services d'avortement sûrs.
L'ancien président américain Donald Trump a restreint le financement de la santé reproductive dans les pays en développement dans le cadre de la règle dite du bâillon contre l'avortement. Les militants du droit à l'avortement disent que c'était le premier signe que davantage d'actions seraient nécessaires pour protéger ce droit chez eux.
Alors que les États-Unis ont été très généreux en soutenant nos systèmes de santé, nous devons être plus proactifs nous-mêmes et avoir les bonnes lois, les bonnes pratiques qui favorisent l'accès à la santé reproductive, y compris les soins d'avortement.
Le Kenya a progressivement libéralisé ses lois sur l'avortement pour autoriser en 2019 l'interruption de grossesse en cas de violence sexuelle. Un juge a statué en mars de cette année que les soins liés à l'avortement sont un droit constitutionnel et a même cité la décision Roe v. Wade de la Cour suprême des États-Unis qui a ensuite été annulée en juin. Cette décision est contestée et les défenseurs kényans du droit à l'avortement craignent que le changement de loi aux États-Unis n'affecte la décision finale.
C'est également ici que s'achève cette session de Votre santé, votre avenir qui vous a été présentée par Manit Talani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique. Et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre...